ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots.
La saga des radios libres de 1977 à 1981.
Une émission d'Alternante FM à Nantes. Aujourd'hui, en 2023, on trouve en France plus de 850 opérateurs privés qui exploitent plus de 5000 stations en modulation de fréquence et des centaines de radios uniquement diffusées en streaming sur Internet. Tout cela nous apparaît normal et pour tout dire, banal. Pourtant, il y a un peu plus de 40 ans, émettre sur la bande FM, quasi vierge de fréquence, était un délit. Ceux qui s'y risquaient étaient passibles d'un mois à un an de prison et encouraient de 10 000 à 100 000 francs d'amende, soit ramenés à la monnaie actuelle, de 1 500 à 15 000 euros d'amende. Jusqu'en 1981, à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, on trouvait seulement 3 ou 4 radios nationales sur la bande FM, France Inter, France Culture, France Musique et FIP. On trouvait aussi 3 ou 4 radios sur la bande des fréquences en modulation d'amplitude qu'on appelle les grandes ondes. L'écoute en grandes ondes était la plus courante à l'époque. L'écoute de la FM était encore réduite, mais tout le monde possédait, à la maison ou en voiture, un poste de radio FM. Sur les grandes ondes, on trouvait France Inter et les radios privées dites périphériques, Europe 1, RTL et RMC. On les appelait les périphériques car leurs émetteurs étaient situés en dehors de la France, en Allemagne, au Luxembourg, en Italie. Seuls leurs sièges sociaux et leurs studios étaient en France.
Si vous avez, comme moi, trituré les boutons de votre transistor entre 18h et 19h, vous avez peut-être pu entendre une émission pirate diffusée à Paris par ce que l'on appelle une radio verte.
Patrick Poivre d'Arvor, au micro du journal de 20h d'Antenne 2, le 13 mai 1977.
L'une de ces fameuses radios que les écologistes de la capitale avaient annoncées à grands cris au moment des municipales. Radio parfaitement illégale, puisqu'il y a en France un monopole d'État. Et si les autorités savaient où se trouve l'émetteur de cette radio clandestine, elles auraient pu interrompre cette émission. Mais Antenne 2 a pu localiser cette radio verte. C'est un reportage exclusif que vous propose Antenne 2 et Patricia Coste.
Radio Verte, première diffusion. Émission manifeste.
Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement, puisqu'on leur avait refusé leur demande de dérogation au monopole. Elles sont arrivées par provocation, pour rompre les carcans de la non-communication, pour protester contre la mainmise sur la France du monopole d'État.
Les émetteurs sont assemblés à partir de pièces détachées. Pour ensuite régler ces pièces détachées une fois qu'elles sont assemblées, il faut un certain nombre d'appareils comme un fréquence-mètre, un contrôleur universel, un oscilloscope qui nous permettent de savoir que les émetteurs sont propres, qu'ils ne baffent pas sur d'autres fréquences et qu'ils n'entraînent pas de gêne pour les autres usagers. Car ces autres usagers pourraient être facilement gênés, ce sont les ambulances, les avions, la police qu'il ne faut évidemment pas gêner pour ne pas donner de prétexte. Donc les émetteurs fonctionnent parfaitement bien, on en est certain à partir de ces mesures, et ces mesures peuvent être doublées à partir d'un autre système de mesures dans des laboratoires professionnels dont nous avons la complicité.
Avec leurs émetteurs fourmis cachés dans des appartements, leurs émissions de courte durée très localisées, les radioécologistes comptent bien déjouer longtemps les services de détection du ministère de l'Intérieur et des PTT, fort gênés, dit-on, par toute cette histoire.
Dès 1977, de nombreuses radios pirates virent le jour en France, malgré une législation répressive d'un autre âge. Ces pirates étaient inspirés par les radios anglaises émettant en haute mer, dont Radio Carolagne et la libération des ondes en Italie, faite quelques années auparavant. On trouvait parmi eux des passionnés de technique, de musique ou de paroles libérées, des anciens militants de 68, des écologistes, des avocats, des journalistes, des hommes politiques, des syndicalistes. Tous bravaient les interdits d'émettre. Des émetteurs étaient bricolés localement ou importés clandestinement d'Italie, et des studios radio clandestins apparaissaient un peu partout en France.
Radio Verte, 89 MHz.
On peut changer la fréquence en une demi-heure, c'est-à-dire que si on voit à 6h30 que crac, ils sont sur 92 MHz, bon, en une demi-heure, passe compente, tournevis et tout, et puis on change de fréquence.
En cas de brouillage, cherchez une wire sur votre cadran.
Comme chaque jour, nous allons présenter des disques demandés par les auditeurs. Nous vous rappelons que pour obtenir le disque que vous désirez, il suffit d'écrire sur carte postale...
À Mont-Savant, concert des auditeurs, Clichy, Seine.
Avant, il y avait la radio. Puis j'entendais quelquefois, mais tu comprenais pas ce qu'il disait à la radio.
Oui, ben, je ne sais pas, on croyait qu'il y avait quelqu'un qui sortait de terre qui parlait. Hein. Manifesto.
L'idée de base de l'écologie, c'est faites-le vous-même.
Brice Lalonde.
Alors, tant pour le programme des réalisations qu'on veut mettre en place, que ce soit par exemple en matière d'énergie, que ce soit en matière de consommation, même de production, on essaye de ne pas revendiquer, c'est-à-dire d'attendre d'un pouvoir installé qu'on nous octroie ce que nous demandons, mais de le faire nous-mêmes. Et c'est la même chose en ce qui concerne les moyens d'information. On doit créer des moyens d'information qui touchent réellement l'ensemble du public, toute la population. Quoi. Alors les radios, ça semble être ce moyen-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de raison de penser qu'avec des moyens artisanaux, en quelque sorte, ou petits ou réduits, on ne touche pas l'ensemble de la population. Généralement, on se bloque en France parce qu'on considère qu'on est totalement limité par des moyens artisanaux. Ce n'est pas vrai.
Radio Libre, la seule radio en France qui diffuse du reggae de la Jamaïque.
Avis aux électrons.
Radio Clogoff.
Sur 92 MHz, de 10h à 13h, de 17h à 20h.
Et bien sûr, vous êtes sur 98 MHz. Comme souvent le week-end, c'est-à-dire vendredi soir, samedi soir ou dimanche, après 22h. Au fait, si vous téléphonez aux copains, dites-leur de bien déplier les antennes.
102 MHz, Lorraine Cœur d'Acier. Radio.
Radio de la CGT.
Nous sommes des gens qui se battent pour vivre et travailler au pays. On peut moderniser notre usine. Et vous le savez, si on casse les usines, avec qui? Avec quoi et comment on va produire cette usine? Alors ça vous dit comme ça.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal. Il va dérivant, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir.
À Nantes, on n'était pas en reste. Dès juin 1977, une radio pirate, dénommée Radio Libre 44, se fait entendre à différents endroits de la ville lors d'un procès de militants opposés à l'implantation d'une centrale nucléaire au Pèlerin située à une trentaine de kilomètres de Nantes. Une première émission d'une demi-heure a été diffusée avec les moyens du bord. Elle s'est faite avec un émetteur d'un demi-watt gros comme un paquet de cigarettes et avec pour antenne, un bout de fil de 70 cm scotché sur un manche à balai. L'émission était diffusée par un petit magnétophone à cassette et le tout alimenté en 12 volts avec une batterie de moto.
Ici Radio Libre 44, bonjour. Nous émettons pour la première fois sur la région nantaise en modulation de fréquence 92 MHz. Dans le centre de Nantes, au Pèlerin à 20h, au nord de Nantes à 21h30.
La diffusion n'était évidemment pas d'une très grande qualité, mais cependant, une bonne couverture par les médias locaux a été assurée. Radio Libre 44 était la troisième radio à émettre en France à cette époque. Le lieu de diffusion s'est fait en centre-ville, à partir d'un toit très proche des rédactions de Ouest France, Presse Océan et France 3. Les jours suivants, différents articles dans les journaux relatèrent l'exploit. Dès septembre 1977, après avoir profité des vacances d'été pour aller voir des radios en Italie, ramener du matériel et construire de nouveaux équipements, Radio Libre 44 reprend ses émissions avec un nouvel émetteur d'une vingtaine de watts et une forte motivation. Armé d'un grand sac dans lequel était mis l'émetteur, un petit magnétophone à cassette, une batterie de moto de 12 volts et d'un étui de canne à pêche dans lequel était dissimulée l'antenne bricolée, les joyeux lurons arpentaient les différents toits des immeubles les plus hauts de Nantes. À chaque fois, le lieu était différent. Quelques extraits d'émissions diffusées.
Ici Radio Libre 44, bonsoir. On va d'abord écouter un pionnier de la pédagogie Freinet qui va en gros nous raconter l'histoire.
Célestin Freinet passa toute son enfance dans le petit village de Garces, en Haute-Provence, où il était né le 15 octobre 1896.
Tu sais qu'il y a plein de radios pirates maintenant, de radio libre. Il y en a une à Nantes.
Celle-là, c'est extra. J'ai fait une émission dans une radio pirate qui était en Italie, à la frontière italienne. Des joyeux aussi, ceux-là. Tu vois.
Avant de continuer à écouter les autres chansons du spectacle de la Villiers, je vais vous raconter en fait ce qui se passait devant les grilles de la salle de la Beaujoire. Alors, et là, il y avait tout un groupe de jeunes qui distribuaient des tracts sur lesquels ils pouvaient lire, par exemple, sous forme d'interrogation, Bernard Lavillier, Zonard, Marginal ou Superstar.
La construction de la centrale a été officiellement ajournée, on pourrait croire qu'il ne se passe plus rien au Pèlerin. Et pourtant, ça n'est pas vrai. La lutte continue et la solidarité doit continuer avec les gens qui luttent contre cette centrale. Lundi, 34 personnes vont être jugées au tribunal de Nantes. Elles sont inculpées au titre de la loi anti-casseurs. Nous les avons rencontrées et nous leur avons demandé d'expliquer pourquoi elles passaient en procès.
Pour avoir, le 10 juin 77, détruit un registre d'enquête publique à Saint-Jean-de-Boiseau. L'enquête publique, bien sûr, relative à la construction de la centrale du Pèlerin. Bon, le 10 juin, c'était le procès de 5 paysans qui avaient détruit, qui avaient participé à une action similaire, quelques jours auparavant, à Couëron. C'était les 5 otages, comme on les appelait à ce moment-là. Ils avaient déjà passé pour cette action 8 jours en prison, sans jugement. Et on attendait un verdict clément qui permettrait au moins leur libération. Et pendant toute la journée, dans la salle du palais et aux abords de la place, qui était très très bien gardée par les forces de l'ordre, le verdict tombe, 8 mois, dont 2 fermes. Alors là, c'est la stupéfaction, vraiment la colère qui monte, c'est l'injustice évidente, quoi, l'injustice flagrante. Réaction dans la salle, sur la place du palais.
Je l'appelais, le tu la porte d'en avant. Tu peux cogner, mais tu peux pas rentrer.
Je
cogner, mais tu peux pas rentrer. Tu peux cogner, mais tu peux pas rentrer. J'ai la clé dessus la porte du côté. Tu peux cogner, mais tu peux pas rentrer. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. J'ai la clé dessus la porte en arrière. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer.
C'était Radio Libre 44.
Au fur au temps, tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troupions vont tous se mettre en grève. Ça sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Et nous rejoignons maintenant notre ami Lucien Jeunesse à Port-Salle pour le jeu des 1000 francs.
Chers amis de Port-Salle, bonjour, bonjour. Petite bourgade baignant dans le Mazour, Port-Salle, ignorée jusqu'à aujourd'hui, est devenue célèbre grâce à l'Amoco Cadiz. Aujourd'hui, première question. Alors, une question noire de Monsieur Dornano de Deauville. Quelle est la couleur noire du Mazou, Monsieur?
Celle de la plage?
Oui, très bien! Et on l'encourage! Bon, deuxième question, le tanker. Monsieur, vous allez tenter le tanker. Sachant qu'il n'y aura plus ni faune, ni flore pendant 10 ans, quel était l'âge du capitaine de l'Amoco Cadiz? Allez, monsieur, une réponse, c'est le tanker. 250 000 tonnes.
40.
Allez.
40.
Oui.
43 ans.
Eh oui, la gagne. Bon, maintenant, chers amis de Port-Salle, il va falloir lui demander de tenter le super tanker.
Super, super
tanker,
tanker, tanker, tanker.
Bon, chers amis de Port-Salle, le super tanker par ce monsieur va être tenté. Sachant qu'il a fallu 1000 militaires pour endiguer la marée noire, combien faudrait-il de militaires pour empêcher les populations irradiées de fuir la zone contaminée en cas d'accident nucléaire? Monsieur, je vous écoute. Monsieur, vous avez perdu, mais la Shell a le plaisir de vous offrir un bidon d'huile en lot de consolation.
Oh, merci.
Et ramassez le pétrole à deux mains, si vous le voulez bien.
Notre émission est terminée. Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis soirs à 19h30 aux alentours de 90 et 101 MHz. Vous pouvez nous écrire par l'intermédiaire de l'APL, 26 bis boulevard Robert Schumann à Nantes. Proposez-nous des sujets d'émission, faites vos cassettes et si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement. Bonsoir.
Ainsi, les micros de Radio Libre 44 étaient tendus à tous les militants de l'époque, antinucléaires, antimilitaristes, écologistes, ouvriers de la navale en lutte pour leur salaire ou le maintien de leur emploi. De nombreux paysans, notamment ceux du mouvement des paysans travailleurs, maintenant appelés la Confédération paysanne, venaient parler de leur lutte contre les multinationales de l'agroalimentaire, du camp militaire du Larzac ou de l'expulsion de paysans de leurs fermes.
Travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard. Hors de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et le revers sera fiable.
Le champ de la machine à faire était coupé. Et nous, on se figurait, du fait qu'il avait fait cette pression à notre prédécesseur, il se mettait peut-être en tête qu'on aurait parti du fait qu'il faisait pression, quoi.
Pourquoi vous n'avez pas eu le soutien des paysans, des agriculteurs autour?
Parce que les agriculteurs étaient mal informés du fait que le responsable de l'Union cantonale, à toutes les fois qu'on allait le trouver avant les audiences, disait toujours « ça doit s'arranger, conservez l'avocat et ça doit s'arranger ». Et c'est certainement la chose qu'on a trouvée la plus dure, d'aller à Paimboeuf, à Nantes et à Rennes, toujours que tous les deux. C'est qu'en 70, quand le bail a été résilié, que les gars, là, ont dit quand même, c'est pas possible qu'on vous fiche à la porte pour des raisons pareilles. Et c'est qu'à ce moment-là, quand même, surtout les jeunes, on dit, nous qu'on n'est pas propriétaires, si aujourd'hui vous fichez à la porte, demain ce sera nous.
Les animateurs, diffuseurs pirates de Radio Libre 44, diffusèrent souvent leurs émissions en courant au chat et à la souris avec les services de police spécialisés, les renseignements généraux et la DST, la Direction de surveillance du territoire. En 1982 fut connu le fait que la DST avait loué en 1978-1979 un appartement dans une rue de Nantes, tout juste en face d'un grenier, dans lequel était installé un studio d'enregistrement. Les grandes oreilles écoutaient et surveillaient. Un soir, raconte l'un des animateurs de Radio Libre 44, après une émission sur l'une des tours du quartier de Malakoff à Nantes, en descendant de l'ascenseur, nous nous sommes retrouvés au rez-de-chaussée, nez à nez avec deux individus, imperméables belges et sourires aux lèvres, des agents des renseignements généraux. À chaque émission, la police essayait de localiser le lieu d'émission en utilisant un système de triangulation constitué de trois camions différents de goniométrie. Mais l'écoute des fréquences radio de la police, qui à l'époque était facile, a toujours pu éviter toute interpellation et saisie de matériel en flagrant délit. Mais pour empêcher toute écoute, la police avec l'aide des services nationaux de télédiffusion de France, TDF, pratiquait le brouillage. Il suffisait à TDF d'émettre sur la même fréquence utilisée par Radio Libre 44, un signal audio parasite. Comme ils émettaient avec une forte puissance et du haut d'un pylône très élevé, l'écoute était impossible dans toute la zone de diffusion. Christian Bûcher, l'un des animateurs de Radio Libre 44, au micro de Radio Atlantique en 1982, un an après la fin du monopole de la radiodiffusion.
Dans cette période-là, nous émettions sur deux fréquences.
Donc dans cette période-là, il y avait également un brouillage.
Toujours.
Toujours un brouillage
omniprésent. Et même à la fin, il s'est effectué sur les deux fréquences, puisque nous avions deux émetteurs qui émettaient donc sur deux fréquences simultanément, mais cela n'a pas été suffisant à la fin pour pouvoir passer malgré le brouillard. Mm-hmm. Aux informations régionales, nous avons entendu que l'émetteur de TDF à la louer était en révision et que donc il n'y aurait pas le lendemain matin d'émission radio FR3, enfin d'émission aussi de France Inter. Alors on a sauté sur l'occasion, malgré le peu de temps qui nous restait, on a essayé de mettre un programme sur pied, et on s'est levé le matin très tôt à 5h, et à 7h, nous avons occupé la fréquence de France Inter, si bien que la majorité des auditeurs de France Inter n'étant pas au courant de cette panne, sont tombés sur notre programme, et ça a fait parler beaucoup de nous, hein, sur la région de Nantes. Je crois que c'était un bon coup, il fallait pas le rater, donc il faut faire preuve d'imagination et d'à-propos, et puis être à l'affût, hein, quand on est le David contre Goliath, le petit contre le gros.
Radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
Alors, c'est une radio libre.
Chaud, parfait.
Que nous émettons sur 90,8 et 96,15 MHz. C'est la seule radio qui se paye deux émetteurs.
Cette liberté d'émettre s'accompagnait d'une réelle prise de risque et ce fut là une des caractéristiques essentielles du mouvement des radios libres entre 1977 et 1981. Beaucoup en France en ont d'ailleurs payé le prix, subissant tour à tour ou simultanément brouillage, saisie, procès et amende. En juin 1979, un célèbre personnage fut également malmené. Ce personnage s'appelait François Mitterrand. Il écopa, en qualité de premier secrétaire du Parti Socialiste, d'une inculpation pour infraction à la législation sur le monopole, suite à la diffusion de plusieurs émissions du Parti Socialiste.
Monsieur François Mitterrand, à la suite des émissions pirates du Parti Socialiste.
Le célèbre présentateur télé de l'époque, Léon Zitrone, journal du soir d'Antenne 2.
Des émissions Radio Riposte a été inculpé de violation du monopole de radiodiffusion en vertu de l'article 33 de la loi du 7 août 1974. Au terme d'une après-midi mouvementée, M. Mitterrand a tenu à l'Assemblée nationale une conférence de presse, conférence au cours de laquelle il a insisté sur l'aspect politique de l'affaire.
Dans l'histoire de la France, il y a toujours eu des moments où des hommes ont dû prendre des risques pour la liberté. Or, aujourd'hui, il existe un détournement de la loi sur le monopole audiovisuel, une atteinte grave à la liberté de la presse, une fraude permanente sur le service public de la radio-télévision. Les auteurs de ces manquements sont le président de la République et son gouvernement.
Mais M. Mitterrand s'est lui-même gracié quelques mois plus tard.
3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Dès le 18 juin 1981, Radio Libre 44 cessait ses activités, laissant la main, ses fréquences, son émetteur à Radio Atlantique. C'est une autre histoire qui commence alors, histoire que nous vous raconterons dans une prochaine émission.